L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Qu'est-ce que ça change de bosser pour une boîte américaine? On va poser la question à Nadine Pichelot, elle est directrice financière d'Anaplan. Et puis pervers, porc, geste intolérable, on manque de vocabulaire pour qualifier le sexisme au travail. On manque aussi de nuances. Tell me the truth a créé un manuel avec des mots qui comptent. Un chef, est-ce que ça doit forcément être bon à l'oral? C'est une question qui se pose et apparemment la réponse est oui. C'est ce que va nous expliquer Charlie Clark, il est spécialiste de la communication. Happy Boulot le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Nadine Pichelot, directrice financière d'Anaplan en Europe. Bonjour. Alors Anaplan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société américaine cotée au NYSE, 1800 employés dans le monde. Vous commercialisez un logiciel pour planifier les activités, que ce soit en finance, en supply chain, en vente, en ressources humaines. Est-ce que c'est Excel, mais en mieux ?
Merci Laure, bonjour. Anaplan, ben, je pense qu'Anaplan est utilisé effectivement dans les cas où on doit planifier des grandes quantités de données. La planification, elle est généralement réservée à la finance, mais là, elle permet effectivement de planifier dans d'autres secteurs d'activité, généralement la logistique, qui en a beaucoup besoin, les ventes. Et donc, je pense qu'elle convient pour des grandes quantités de données, pour des grandes collaborations entre employés dans diverses fonctions, où Excel peut avoir ses limites. Excel reste un outil de productivité personnelle.
Vous êtes directrice financière, vous gérez donc de l'humain, vous avez une équipe, vous êtes en 100% télétravail. Vous faites comment le télémanagement? Vous les appelez tous les matins, vous faites des points réguliers, vous avez complètement changé votre manière de gérer les gens?
C'est un très bon point. Donc nous, on est effectivement en télétravail depuis le 15 mars, hein, depuis un an. Globalement, avec le principe de précaution qu'on a voulu protéger nos salariés, on était déjà une entreprise assez digitalisée, prête. Donc on télétravaillait, je vais dire, à peu près 2 jours par semaine déjà. Mais effectivement, d'abord, la sidération a ennuyé tout se passer. Donc moi, j'ai maintenu depuis le début 3 réunions par semaine avec toute mon équipe, où tout le monde vient. Et on a un agenda, bien sûr, de problèmes business, mais on parle un petit peu aussi d'autres choses, parce que je pense que c'est important pour vérifier que les gens vont bien. Parce qu'il y a des gens seuls, il y a des gens... Il n'y a pas toujours quelqu'un pour veiller sur vous quand vous êtes seul et que vous ne voyez pas grand monde, première chose. Ce que ça nous a appris aussi, c'est que j'ai trouvé que dans les 3 premiers mois, on ne travaille que sur du court terme. Alors mon cas, c'était gérer le cash. Donc on est passé d'une gestion du cash 3 mois, 1 mois, la semaine, le jour. Et en fait, on avait beaucoup de mal à se projeter dans le milieu, dans le moyen terme et le long terme. Et du coup, alors on a remis un peu de réunion, plus de planification pour parler de ces sujets. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile, c'est se sortir du court terme et repartir un petit peu avec une vision et une stratégie à plus long terme.
Et là, vous avez l'impression qu'on y est, qu'on arrive enfin à avoir une vision?
Alors là, je trouve qu'on y est un peu plus parce que entre-temps on a appris plein de choses, on a fini l'année. Nous, on n'est pas retourné au bureau, donc on a continué à travailler comme ça. Mais quand on a déconfiné, on a revu un peu de clients aussi. Donc je trouve qu'on s'est un peu ouvert l'esprit. On a appris de ce qui se passait. Et je trouve que là, on a réussi à faire notre plan pour l'année prochaine. Et du coup, on a mis en place aussi d'autres réunions qui sont plus sociales. Donc, notre patron Europe met en place un café Europe très régulièrement de manière.
Donc,
très...
vous organisez la vie sociale de l'entreprise, le café, mais volontairement, quoi. Vous mettez des horaires. Oui. Là, c'est la pause.
Ouais, on met pas la pause, mais on a aussi beaucoup d'outils comme Slack, par exemple, qui est la messagerie interne. Donc, quelqu'un vous envoie un Slack et ou quelqu'un va m'appeler sur mon portable et ça me fait très plaisir quand quelqu'un va m'appeler et me prendre de mes nouvelles. Donc oui, on a réussi à remettre peut-être un peu plus de spontanéité. On était très organisés, on a un peu plus de spontanéité. Et pour vous raconter une anecdote, j'ai organisé un pot de Noël. Donc j'avais envoyé, je vais beaucoup en Corse, donc j'avais envoyé du vin corse à mes collaborateurs. Et donc j'ai renversé le vin corse sur mon ordinateur. Donc j'ai été 15 jours sans ordinateur. Les effets de la semaine de Noël.
Donc les pots, c'est pas bien, même quand on est chez soi.
C'est pas toujours bien quand on est chez soi.
Donc, on n'avait pas d'alcool au bureau, vous voyez,
C'est ça. Donc ça, c'est un petit peu l'anecdote. Mais du coup, je pense qu'on a retrouvé un peu ça maintenant. Mais il y a toujours cette intelligence collective qu'on n'a pas quand on est en télétravail. Je trouve qu'on la manque.
Qu'est-ce que ça change de travailler pour une boîte américaine ?
Qu'est-ce que ça change de travailler pour une boîte américaine? Alors ça, ce qui change, c'est d'être sur plusieurs zones, parce que moi j'ai un job qui est assez global, donc parfois de ne pas pouvoir débrancher. Donc il y a quelque chose qu'on a fait et que j'ai trouvé très 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 bien, c'est qu'on a donné des journées où toute la boîte s'est arrêtée. On a fait ça en 2020, plus pour la santé mentale, parce que je pense qu'il y a eu un vrai problème de prise de vacances des salariés.
Mais arrêtez de dire fermer.
C'est-à-dire on ferme, sauf bien sûr le support, les data centers, ben bien sûr supporter nos clients. Mmh. Mais ça veut dire que personne ne travaille. Donc, mon patron qui est en Californie va pas m'envoyer un mail où je vais me sentir obligée de répondre. Je vais pas avoir, moi je signe beaucoup de contrats clients, donc je vais peut-être pas avoir. Mais j'ai trouvé ça, c'est très basique.
Hein. Mais pendant combien de temps ?
On fait ça une journée, mais on en a fait sept. Donc on a fermé pratiquement entre Noël et jour de l'an, où on a eu un vrai repos parce que tout le monde est à l'arrêt.
Mais vous êtes obligé de le faire ? C'est-à-dire que sinon vos salariés ils arrêtent pas en fait ? Vous êtes obligé de les forcer à...
On n'est pas obligé de le faire, mais ce qu'on a noté vraiment pendant toute cette année, c'est que les gens disent « Bah non, je ne veux pas prendre de vacances, je suis chez moi ».
Bah oui.
Je pense qu'il faut prendre des vacances parce qu'on est fatigué, parce qu'on gère tout. Enfin, on a bien vu, enfin, les enfants, on a une charge mentale, je trouve, qui est énorme. Et c'est très insidieux parce que c'est moins que de la fatigue physique, mais c'est très insidieux, on le voit pas. Donc, on a un petit peu obligé aussi en Angleterre, en France, les gens à prendre leurs vacances. Bien sûr, il y en a qui vont être reportés parce qu'on n'a pas pu tout prendre. Mais c'est très important aussi de se. Donc ça, là, je trouve que l'entreprise l'a fait beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est l'entreprise américaine. Je pense que moi, j'aime beaucoup le côté qui peut être aussi vu par certains comme négatif, mais le côté positif du « oui, on peut », donc cette volonté aussi de vouloir faire les choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très pragmatique des Américains, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des solutions.
Une pensée plus positive.
Je pense qu'on est dans une pensée plus positive, il ne faut pas être naïf. Je veux dire, c'est des arguments économiques, ce n'est pas les bisounours.
Réussir
exactement.
Et faire rentrer du cash.
Mais je trouve que c'est quand même...
C'est la possibilité.
C'est la possibilité et le monde des possibles. Où, bah oui, on va essayer de trouver une solution, alors que parfois, dans d'autres entreprises plus structurées, et la structure aussi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a cet aspect, si on a de la crédibilité, on peut aller avoir accès à des personnes dans le management beaucoup plus facilement qu'en France. C'est beaucoup moins rigide et hiérarchique.
Les questions de diversité sont arrivées aujourd'hui dans les boîtes françaises, diversité homme-femme, diversité chez les jeunes, diversité de l'ensemble des candidats. Aux États-Unis, ça fait déjà un moment qu'on a commencé à être proactif sur ces questions, parfois de manière assez étonnante. On a vu des choses se passer chez Airbnb assez étonnantes de salariés qui reçoivent des manuels de comment se comporter avec un salarié qui est noir, comment se comporter avec les femmes. On va très très loin dans la proactivité dans le management. Ça se passe comment chez vous ?
Alors, on n'en est pas à ce point-là, mais effectivement, on a vraiment une volonté, nous, notre CEO, sur la diversité. Donc, on a trois femmes maintenant au bord d'Anaplan.
Sur combien ?
3 femmes sur 9. Donc, d'accord. 30% dans les boîtes de latex, c'est plutôt bien. La Californie vient juste de promouvoir des quotas, alors que nous, on est très en avance. On était très en avance avec la loi Copé-Zimmermann. Donc, là-dessus, il y a une vraie sensibilisation. Je crois qu'on a 35% de femmes dans toute l'entreprise. Sur les postes du comité exécutif, je crois qu'il y en a à peu près un tiers aussi. Et à des jobs importants. Je vais pas dire que la DRH et la finance, qui sont un peu les jobs où on a la patronne de la recherche et de la
R&D. En général, ça commence toujours par le développement durable. Donc, après les RH et après
c'est un peu
DAF.
La caricature, mais nous on est sur des femmes qui ont vraiment des jobs, la patronne d'Asie-Pacifique, de tout ce qui est le commercial, la patronne du développement, donc ça c'est une vraie volonté. Après sur le reste, oui, alors il y a des groupes sur les LGBT, il y a eu beaucoup de communication sur ce qui s'est passé après à Minneapolis avec George Floyd et le Black Lives Matter, donc on a fait beaucoup de communication là-dessus, où nous Européens on a regardé ça en se disant, mais
on fait jamais ça dans les boîtes européennes. Pas de la communication sociétale dans les boîtes.
Non.
C'est trop dangereux, c'est trop politique.
Ouais, mais là ils le font. Ils nous ont fait une communication, par exemple aussi sur le fait qu'il y ait le procès du policier qui a tué George Floyd récemment et que d'être un peu. Mais c'est plutôt sur soyez peut-être avertis que des gens puissent avoir des réactions. Donc, mais on n'a pas.
Mais
de
on
manuel.
Vous informe. Non, mais on vous informe.
Oui. Oui.
On vous invite à vous tenir au courant.
Absolument.
De l'ensemble de l'actualité.
Exactement, et de comment des gens peuvent être heurtés aussi peut-être du comportement de certains et d'être en fait c'est d'être sensibilisé. Donc ça c'est vrai qu'on a ce genre d'informations.
Sur la question de la diversité des femmes, vous êtes proactif jusqu'à quel point? Vous mettez des quotas dans les recrutements? Vous
on met pas des quotas dans les recrutements, mais ce qu'on fait alors dans les recrutements, on utilise un outil qui s'appelle Textio qui en fait enlève le biais inconscient des annonces de recrutement. que ce soit une annonce écrite par un homme, il y aura des mots masculins. Une annonce écrite par une femme, il y aura des mots féminins. Je vais prendre, on va pas caricaturer, un puissant chez les hommes. Et donc, il y a.
Ah
un
bon, le... Et vous êtes rendu compte de ça?
Oui, bien sûr, parce qu'on avait des, on avait des jobs. On n'avait pas de femmes. Alors, on veut bien recruter des femmes.
Rien
qu'en changeant la manière dont c'est écrit, vous ne résolvez pas tous les problèmes, mais vous avez déjà, vous enlevez le biais. Et en plus, le biais, il est inconscient. Donc, je suis sûre que moi, si j'écris une annonce, je vais l'écrire. Ça va être une femme, peut-être qui me ressemble. Voilà. Et donc,
C'est bien de ressemblance, quoi. C'est de se calquer, de faire venir quelqu'un qui est son pareil.
On a une formation aussi sur ce qu'ils appellent ce unconscious bias, donc votre bien inconscient, que vous le vouliez ou non, que vous en êtes totalement inconscient. Donc, on peut pas vous accuser de le faire, mais donc si on arrive à le comprendre, donc on fait beaucoup
c'est
ça.
C'est là où l'intelligence artificielle a son intérêt.
Je pense que voilà,
ça, elle est neutre.
Ça, nous on recrute des développeurs et des commerciaux. Et souvent il y a pas énormément de femmes, et il y a pas que les femmes, il y a évidemment les femmes, les hommes, mais aussi la diversité ethnique, la diversité culturelle, qu'on puisse toucher tous les gens, et surtout dans un monde où on va travailler de plus en plus en télétravail, je pense qu'on va avoir un accès un de talent. Donc si on ne l'attire pas, il faut qu'on soit très vigilant. Le deuxième truc très basique, que ça j'ai toujours fait dans toutes les sociétés, c'est que j'ai vu des femmes passer des entretiens. Dans les entretiens, elles ne voient pas une femme. Bah, ça donne pas beaucoup envie d'y aller non plus, en se disant pas forcément. Alors ça peut être une femme qui est à un poste de manager, ça peut être une femme qui a le même job, mais au moins pouvoir regarder. Donc ça, c'est des choses très basiques, mais auxquelles on fait très très attention, et c'est assez facile à mettre en place.
Merci beaucoup Nadine Pichelot d'avoir été avec nous, directrice financière d'Anaplan en Europe. On va continuer à parler des femmes, on va parler sexisme au travail.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better together.
94% des femmes sont victimes de sexisme au travail. Comment on fait pour lutter? C'est notre sujet avec Elie Siksik, cofondateur de Tell Me The Truth. Bonjour. Bonjour. Tell Me The Truth, c'est une agence de communication spécialisée dans la diversité et l'inclusion. Ce chiffre, c'est toutes les femmes, hein, 94%. On se demande comment il y a 6% qui sont passées à travers. Le problème, c'est que c'est parfois le sexisme insidieux, sans s'en rendre compte, parfois à travers le vocabulaire. Comment on fait pour faire évoluer le vocabulaire dans une entreprise?
Alors, c'est une très bonne question, la question de la sémantique, puisque le sexisme, c'est une manifestation violente, on le perçoit de manière assez violente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les réactions se sont aussi concentrées sur une sémantique qui, elle aussi, est assez violente, hein, balance ton porc, c'est une sorte de réaction un peu épidermique. Et justement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il manque tout un champ lexical pour qualifier les faits, les ressentis, les actions, dire d'un geste qu'il est déplacé avant de dire qu'il est condamnable, définir un propos comme étant infériorisant avant de dire qu'il est intolérable. Voilà, toute cette sémantique-là...
C'est la nuance, c'est l'éloge de la nuance en fait.
C'est l'éloge de la précision et surtout de la qualification. En justice, avant de juger un fait, on le qualifie. Pour les sujets de sexisme, de harcèlement, on a le sentiment qu'il faut faire la même chose, parce que sinon on se retrouve dans des querelles assez passionnées, dans des débats qui sont presque des débats de point de vue. Être pervers, c'est pas un jugement objectif. Qu'un propos soit infériorisant, ça l'est.
Alors du coup, vous faites quoi, hein? Vous faites des listes de mots à utiliser pour qualifier les comportements?
Presque. On n'a pas fait un dictionnaire, mais on a créé un ouvrage qui s'appelle « Des mots qui comptent ». Ce sont des mots qui comptent pour faire avancer le sujet, et on donne la définition de mots. J'en ai cité un certain nombre. Infériorisant, déplacé, sexiste, le mot drôle. On entend souvent en entreprise quelqu'un qui a 20 ans de carrière, on peut plus rigoler. Si, on peut rigoler, mais dès lors que le propos est infériorisant ou que la blague est au détriment d'une personne en particulier, c'est plus drôle. On donne des définitions très simples, pas du tout technique, pour replacer un peu les curseurs et surtout permettre à chacune et à chacun de s'emparer de ces mots pour qualifier les situations et donc aller voir son DRH ou son supérieur hiérarchique ou même la personne qui est auteur d'un fait ou d'un propos qui nous gêne en disant « Écoute, là, ton propos... » il était déplacé, il n'avait pas lieu d'être dans des relations qui sont des relations professionnelles.
On voit bien que sur ces questions de sexisme, il y a un problème profondément générationnel avec une génération de jeunes femmes qui se retrouvent, je caricature, mais avec une génération d'hommes plus âgés et qui se trouvent à leur expliquer sans cesse ce que c'est qu'un geste déplacé, ce que c'est que le sexisme. Et ça passe par là, c'est cette génération-là qui doit faire de la pédagogie auprès de l'autre génération.
Alors,
c'est épuisant. Hein.
Alors, c'est déjà bien qu'on libère la parole et qu'on puisse en parler. C'est regrettable qu'il y ait une génération qui a l'air d'en avoir jamais parlé et une qui soit un peu plus.
Parfois, qui s'est jamais rendu compte, en fait. Hein.
C'est ça, en fait, il y a eu des tolérances culturelles. Alors, on parle d'une culture latine. Effectivement, il y a plein de choses qui ont été tolérées. Et le plus dur, c'est ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est de dire bah, en fait, aujourd'hui, on peut plus dire ça, on peut plus faire ça. Donc quelqu'un qui a 20 ans de voix se dit bah quoi, je vois pas. Les règles ont changé. C'est plus et ça recrée un peu des. Mmh. Il se braque mais sur autre chose en disant bah oh là ça devient on peut plus la boîte se durcit etc. Non en fait ce sont effectivement ce qui est toléré qui a bougé, les lignes ont bougé et
on ne peut plus rien dire, vous prenez tout mal.
Exactement. Et c'est un peu dangereux de ne pas veiller, de laisser ces réactions-là s'exprimer souvent avec des voix aussi portées aussi hautes que les propos sexistes même, parce que ça les décrédibilise. Tout l'enjeu du sujet, c'est d'éviter la décrédibilisation des ressentis, la décrédibilisation des accusations ou en tout cas des vécus. Et c'est bien pour ça que nous, on pense que c'est pas la jeune génération d'éduquer, entre guillemets, la nouvelle, mais c'est à l'entreprise de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de créer une culture d'entreprise, encore une fois, avec les mots qui qualifient cette culture.
Tous les hommes de plus de 50 ans ne sont pas des pervers et toutes les jeunes femmes qui s'expriment ne sont pas des chiennes de garde. Je vous résume, mais c'est à peu près ça.
Exactement. Et le sexisme ne touche pas que les femmes. Il y a du sexisme qui touche aussi les hommes. Et quand une femme dit « Ah, bah, c'est bien d'embarquer un mec dans l'équipe parce que ça va rassurer les clientes », d'une certaine manière, c'est une forme de sexisme aussi. Donc voilà, c'est de dépassionner encore une fois les sujets, d'en parler de manière... calme, raisonné, éclairé et objectif.
Quand vous arrivez dans les entreprises et que vous dites on va parler de sexisme ensemble, on va discuter des mots, on vous dit pas franchement on a autre chose à faire, c'est la crise sanitaire, il faut qu'on fasse rentrer du cash, on a des clients à convaincre, ces types de réflexion intellectuelle, on n'a pas le temps.
Écoutez, non, on a plutôt un accueil assez positif de cette démarche parce qu'elle concourt au bien-être au travail, au fait que bah, vous, quand vous arrivez au bureau, quand vous connectez sur Zoom, vous sentiez bien, vous sentiez en pleine possession de vos moyens, vous sentiez avant tout là pour travailler et pas pour être l'objet de relations qui pourraient être différentes. Donc, aujourd'hui, et je dirais même que la crise sanitaire a amplifié cette prise de conscience du fait que les salariés, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, doivent se sentir bien dans les relations avec leurs collègues. Donc, c'est plutôt accueilli dans ce sens-là.
Merci beaucoup, les Six-Six, d'avoir été avec nous. Des mots qui comptent, c'est donc un livre interactif
C'est une campagne d'affichage. Ça peut être un dispositif digital qui est personnalisé pour l'entreprise et qui est amené à être diffusé auprès de toutes les collaboratrices et les collaborateurs.
Merci beaucoup. On va parler désormais formation à l'oral. Est-ce qu'il faut tous être d'excellents communicants ?
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler communication avec Charlie Clark, directeur associé de Wiscom. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en stratégie orale pour les dirigeants. Est-ce qu'un chef d'entreprise doit absolument être un bon communicant ou s'il est mauvais, eh ben tant pis.
S'il est mauvais, il faut qu'il se forme. Parce que clairement, pour engager des équipes, pour les motiver, pour fédérer, il faut quand même communiquer. Et ça passera pas par un mail. Un mail sera pas suffisant pour communiquer. À un moment ou à un autre, il faut que le dirigeant, il s'exprime, il faut qu'il mouille la chemise, qu'il aille au contact de ses équipes. Et ça demande quand même d'être un bon communicant.
Alors ça peut être un bon communicant auprès de ses équipes, mais pas forcément dans les médias.
Les deux.
Ça va de pair.
Pour moi, ça va de pair. En tout cas, ce qui est certain, c'est que être simplement bon communicant dans les médias, ça, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est qu'il puisse créer du dialogue, créer de la relation avec ses équipes. Et donc, ça, c'est clé et il faut qu'il travaille sur les deux piliers, l'externe, mais aussi l'interne.
Ça veut dire que l'envie de le suivre, l'envie de se dépasser pour son job, elle passe par la parole du dirigeant.
elle passe aussi par la parole du dirigeant. Il y a sans doute pas que ça, mais la parole du dirigeant, elle est clé. C'est cette parole du capitaine, de celui qui tient la barre du bateau. Et il faut qu'on sache où va le bateau, comment il est gouverné. Et ça, c'est le rôle du dirigeant. Il doit s'exprimer.
Et comment on fait pour aller contre sa nature quand on est timide? Parce que moi, j'en vois des dirigeants passés qui sont surformés, qui ont payé des communicants.
Et ça se voit.
Ça se voit. Ouais. Et c'est catastrophique. Ouais. Et quand ça se voit, c'est pire que tout.
Ça, je suis d'accord. Nous, notre travail, c'est pas de faire des clones, c'est pas de faire quelqu'un d'autre, c'est au contraire d'aller recréer du naturel. Je pense qu'un bon communicant, c'est quelqu'un qui sait rester naturel en situation de prise de parole. Mais il y a un paradoxe, c'est que le naturel en situation de prise de parole, c'est quand même des techniques et des outils. Pour aller chercher le Charlie que je suis, et qui est chez lui, avec sa famille, ses enfants, il faut que je puisse remettre des techniques pour que ça revienne en situation un peu de trac, de stress, avec de l'enjeu. Et donc, il faut, encore une fois, se former. On n'a pas le choix.
Alors, les techniques, c'est quoi?
Il y en a plein. Il y a des techniques sur le fond, des techniques sur la forme, et il y a une recherche, le silence. Le silence, paradoxalement, c'est ce qu'on recherche. Et on dit souvent chez nous qu'apprendre à parler, c'est d'abord apprendre à se taire. Et donc nos amis dirigeants que nous formons, nous, on leur apprend à se taire. Se taire pour valoriser leur discours, mais surtout se taire pour aller créer de l'espace à celui qui est en face, c'est-à-dire le collaborateur, celui qui reçoit le message.
Si vous voulez leur apprenez l'écoute.
On leur apprend l'écoute. On leur apprend l'empathie. On leur apprend à se mettre à la place de celui qui est en face et essayer de comprendre ses attentes. Et ça va passer par des techniques. Et le silence, il est quand même un des ciments de ces techniques.
Mais vous leur apprenez à faire semblant de s'intéresser à leurs collaborateurs? C'est-à-dire qu'il y a une technique où vraiment vous leur dites à un moment donné, les gars, va falloir écouter en fait.
Hein. Ouais, ça c'est clair. On leur dit que le public, quel qu'il soit, c'est votre cas, c'est mon cas, il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on lui parle de lui. Ça, je pense qu'il faut qu'on l'entende. On s'en rend pas compte, mais la logique humaine, elle est comme ça. Quand vous me parlez de moi, je vais écouter à 10 000% tous les mots. Quand vous allez me parler d'autre chose, c'est un peu moins sûr. Bah, c'est ça qu'on apprend aux dirigeants. On leur apprend que leurs interlocuteurs, quels qu'ils soient, ils ont envie qu'on leur parle d'eux. Et ça passe par des techniques. Mais encore une fois, c'est des saines techniques. C'est pas pour faire du fake, pour aller créer quelqu'un d'autre. C'est pour valoriser celui qui écoute le message.
Mais ça, c'est du coaching en management.
C'est
plus que de la préparation à l'oral.
Bah, c'est les deux. Il y a du coaching, mais il y a aussi cet oral et ce parcours. Nous, c'est vraiment un parcours qu'on propose. Et pour aller valoriser celui qui est en face, il y a des techniques, encore une fois, de structuration du message, des techniques de forme sur le silence, sur la gestuelle. Mais il y a aussi, par exemple, maîtriser son trac. Le trac, quand il est là, quand vous êtes nerveux, vous ne serez pas aussi efficace, pas aussi naturel que quand vous êtes décontracté.
Donc, c'est quoi votre truc pour maîtriser le trac?
Il y a plusieurs techniques. Il y a une technique, c'est d'abord travailler et préparer les choses. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on a recréé chez nous toutes les situations dans lesquelles les dirigeants prennent la parole. Donc, on a un théâtre, un plateau de télé, etc. Et ça leur permet de border les situations. Quand ils vont débarquer ici chez vous, bah ils vont savoir comment ça se passe. Et le trac, il vient quand même en partie d'une forme d'imprévu. Je débarque ici, je me rends pas compte qu'en fait c'est un plateau comme ça, etc. Et ça m'angoisse. Plus on va baquer les choses, plus ça va bien se passer.
Et vous leur faites des problèmes techniques, vous leur enlevez les micros, les fiches, on envoie des bourrasques.
Alors, on va pas jusque là, mais en tout cas, on va les taquiner, on va aller les mettre en situation réelle, avec tout ce qui peut être de réel, tout ce qui peut se passer, les problèmes techniques, mais aussi les questions compliquées, les questions qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, comment est-ce qu'on y répond, toujours dans cette notion de « je veux créer du dialogue ». Voilà, c'est ça qu'on recherche.
Et il y a des fois où vous dites « c'est mort, il faudrait mieux laisser le directeur de la communication parler ».
Le directeur de la communication, il peut parler, mais il n'y a pas que lui. Et ce qu'on dit, nous, à nos dirigeants, c'est que finalement, il y a un codir, très souvent, en tout cas, il y a une équipe dirigeante, et on est très pour que la parole, elle se partage. Que ce soit pas soit le DIRCOM, soit le DG, PDG, présidente qui s'exprime, mais qu'il y ait une forme de collégialité de cette voix, de cette parole, et qu'il y ait un dialogue à tous les niveaux. Que ce soit la DAF qui s'exprime, la DRH à un certain moment, parfois la DIRCOM, le DG, mais qu'il y ait un dialogue. En fait, c'est vraiment ça qu'on recherche. On parle beaucoup des dirigeants. Le dirigeant, ce qui est sûr, c'est que il y a quelques temps, il venait nous voir pour être convaincant. C'était suffisant pour lui. Et ben aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il veut créer du dialogue, créer de la relation et mieux échanger finalement. Et ça passe par la parole du dirigeant, mais la parole du codir.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, on dit, c'est une des soft skills du management. Hein. Il faut être empathique au départ, quoi. Ouais. Que c'est que les gens n'apprennent pas, ne changent pas. Vous dites-y, on peut changer.
On peut changer. En tout cas, en prise de parole.
C'est positif.
Hein. Ben, je pense. On peut se poser les bonnes questions pour se mettre à la place de celui qui est en face. Mais simplement, il faut le savoir. Il faut connaître l'attente du public et on peut avoir un kit, une boîte à outils avec les bonnes questions à se poser.
Parce ça, que vous considérez que les salariés, c'est un public, en fait, comme un autre.
C'est un public comme un autre. Et c'est d'ailleurs le public prioritaire des dirigeants. Bien souvent, quand on envisage les formations en prise de parole, on est très axé externe, journaliste, etc. Vraiment, nous, 90% de nos sujets, c'est l'interne.
Merci beaucoup, Charles Virclarc, d'être venu nous voir, directeur associé chez Wiscom. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre rendez-vous avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat.